Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, il faut se projeter, hein. C'est l'hiver, il fait froid dehors et à la maison, pas question de régler le thermostat au-delà de 19 degrés. 19 degrés, retenez bien, ce sera la température de référence pour les mois à venir. Il va falloir mettre une petite laine supplémentaire à la maison, hein, Dimitri. Objectif, économie d'énergie. Hier, Emmanuel Macron a appelé à réduire notre consommation de 10% dès maintenant. Le chef de l'État qui s'est également entretenu sur la question de la crise énergétique avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Jacques Serret, les deux dirigeants ont convenu d'un accord sur l'énergie.
Oui, pour faire face à la crise énergétique, Paris et Berlin ont décidé de s'allier pour ce qui s'apparente à un échange de bons procédés, annonce d'Emmanuel Macron hier, juste après son entretien avec Olaf Scholz.
L'Allemagne a besoin de notre gaz et nous avons besoin de l'électricité produite dans le reste de l'Europe et en particulier en Allemagne. Ça va se traduire en franco-allemand de manière très concrète. Nous allons finaliser les connexions gazières nécessaires pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne. De la même manière, l'Allemagne se mettra en situation de produire davantage d'électricité et surtout nous apporter dans les situations de pic sa solidarité électrique en la matière.
La France et l'Allemagne d'accord également pour que l'Europe mette à contribution les énergéticiens.
Il y a en effet des bénéfices induits qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui. La bonne approche, c'est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen. Cette contribution pourrait ensuite être reversée aux États membres pour financer leurs mesures nationales ciblées.
Emmanuel Macron qui prend soin de ne pas utiliser le terme de super-profit utilisé par la gauche et par Elisabeth Borne, mais il en prend l'engagement. Si l'Europe n'impose pas ce prélèvement, la France le fera au niveau national.
Jacques Serret du service politique d'Europe.
Hein. Surmonter la crise énergétique grâce à la solidarité européenne, mais aussi en modifiant certaines règles de fonctionnement du marché.
Lors de son allocution, Emmanuel Macron a affirmé qu'il voulait mettre fin au principe qui fixe les prix de l'électricité en Europe. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Journaliste au service économie d'Europe 1. Baptiste, quelle est cette règle dont le chef de l'État ne veut plus exactement ?
C'est la règle dite du coût marginal. Le prix de l'électricité est calculé sur la base du coût du dernier moyen de production sollicité pour en produire. Lorsque la demande est forte, comme en ce moment, ce sont les centrales à gaz qui produisent. Donc, le prix de l'électricité est corrélé au prix du gaz. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, cette règle a été pensée pour encourager les différentes centrales à produire. C'est grâce à cette règle, par exemple, que les énergies renouvelables ont pu se développer alors que leur coût était au départ très élevé. C'est aussi grâce à elle qu'EDF a longtemps vendu de l'électricité nucléaire peu chère à produire à un prix plus élevé en Europe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que le prix du mégawattheure a atteint 1000 euros avant de se stabiliser autour de 600 euros, la règle semble avoir atteint une limite.
Alors Baptiste, qui sont, s'il y en a, les bénéficiaires de cette hausse des prix ?
De fait, lorsque le prix du gaz fait référence, les autres moyens de production permettent de vendre de l'électricité bien plus cher qu'elle ne leur coûte à produire. Mais comme l'explique l'économiste Jacques Percebois, spécialiste des questions énergétiques, ce ne sont pas les fournisseurs qui encaissent des bénéfices.
Les fournisseurs, ils sont mal parce qu'ils revendent souvent moins cher qu'ils achètent. Non, ceux qui gagnent, c'est les producteurs. Alors, ils peuvent être fournisseurs, hein. Mais les gagnants dans l'affaire, c'est ceux qui ont de l'électricité bon marché et qui vendent à un prix élevé.
Alors qui ? Eh bien, via ses centrales nucléaires en Belgique, par exemple, Engie vend en ce moment le mégawattheure à 380 euros lorsqu'il coûte une quarantaine d'euros à produire. Le gouvernement belge estime que le groupe a réalisé 2 milliards d'euros de bénéfices depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a aussi RWE, l'équivalent d'EDF en Allemagne. RWE gère 5 centrales à charbon et la société a enregistré près de 3 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre. Alors c'est énorme, mais ces producteurs respectent les règles du marché et ces bénéfices de circonstance sont souvent réinvestis. RWE, dont je viens de vous parler, a décidé d'augmenter ses investissements dans les énergies renouvelables de 30%.
Baptiste Morin.
Oui, l'un des grands bénéficiaires de la hausse des prix du gaz, c'est encore la Russie. Une étude parue hier nous apprend que le pays a engrangé 158 milliards d'euros au premier semestre.
Et pourtant, l'Union européenne, Emmanuel Macron l'a rappelé hier, est passée de 50% à 9% de gaz russe. Moscou exporte donc 25% de gaz en moins, mais la flambée des prix a permis à la Russie d'augmenter ses profits de 30%.
Il est 8h06. Vous prévoyez peut-être d'acheter pour devenir propriétaire. Alors un conseil, si vous êtes locataire, eh ben restez-le encore un peu.
Ouais, c'est ce qui ressort du baromètre acheter-louer de meilleurtaux.com que vous révèle Europe 1 en exclusivité ce matin. Selon le comparateur, il faut désormais compter en moyenne 14 ans pour rentabiliser l'achat de votre résidence principale, contre 5 ans et 8 mois l'an dernier. Dans certaines villes, l'écart est encore plus impressionnant. À Orléans, par exemple, entre la hausse des taux d'emprunt et du prix au mètre carré, eh bien, il faut désormais 18 ans pour rentabiliser votre achat. C'était 2 ans l'an dernier.
Dans l'actualité judiciaire, à présent, ils ont enfin croisé leur regard. Hier, les victimes de l'attentat de Nice ont vu pour la première fois 7 des 8 accusés.
Le 8e serait a priori détenu en Tunisie, extradition impossible. Il serait donc jugé par défaut. Tous sont des proches ou des connaissances du terroriste. Le 14 juillet 2016, au volant d'un camion de 19 tonnes, il avait foncé sur la foule avant d'être abattu par la police le soir même. 86 morts, plus de 300 blessés, 3000 personnes psychologiquement impactées. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Deuxième jour d'audience aujourd'hui pour ce procès hors norme qui se tient à la cour d'assises spéciale de Paris et que vous suivez pour Europe 1. Hier, on a passé les parties civiles en revue, elles sont 850. Aujourd'hui, Frédéric, on va entrer dans le vif du sujet.
Oui, ce matin, place au fait, la cour va se pencher sur cette nuit du 14 juillet. L'attentat, le bilan et l'enquête seront évoqués et les accusés devraient commencer à s'expliquer. Ils sont 3 dans un box vitré et sécurisé. 4 autres comparaissent libres, parmi lesquels la seule femme poursuivie. Hier, les accusés ont eu quelques secondes chacun pour décliner leur identité. Le président leur a rappelé que le droit français leur permettait de garder le silence, mais tous ont affirmé vouloir s'expliquer concernant les faits qui leur sont reprochés. Hier, étonnamment, peu de parties civiles ont participé à la première journée d'audience. Seules 30 personnes à Paris, 30 également à Nice, sont venues assister au début des débats. Si toutes les victimes et leurs familles ont été liées par cette nuit d'horreur et ces années de souffrance, elles n'appréhendent pas toutes de la même façon ce procès. Certaines parties civiles m'ont dit avoir envie de déposer leurs valises à la barre durant ces 4 mois d'audience. D'autres n'attendent rien, déçus par l'institution judiciaire. Et beaucoup se posent encore des questions sur l'organisation de la fête du 14 juillet. Mais la Cour n'a pas vocation à statuer sur cet aspect de l'affaire. Aujourd'hui, ce sont des proches du terroriste et des individus qui l'ont aidé dans l'acquisition d'armes qui doivent répondre de leurs actes.
Frédéric Michel qui suit ce procès à Paris pour Europe 1.
8h08, direction le Royaume-Uni. Liz Truss, tout en violet, tout sourire à la une de la presse britannique ce matin.
La nouvelle chef du parti conservateur s'apprête à être officiellement nommée première ministre aujourd'hui. On retrouve à Londres notre correspondante Anaïs Cordoba. Bonjour.
Bonjour.
Anaïs, vous avez la presse anglaise du jour sous les yeux, les journaux qui souhaitent bon courage à la future chef du gouvernement.
Tout à fait, hein. Good luck, c'est le titre par exemple du quotidien de la City. Alors dans son ensemble, la presse revient sur les défis énormes qui attendent Liz Truss. Elle prend la tête d'un pays en crise et d'un parti conservateur divisé. Aucun premier ministre depuis Margaret Thatcher ne s'est trouvé face à des conditions aussi difficiles, affirme le Daily Mail. Liz Truss dans une course contre le temps, à la une de The Independent. Le quotidien cite des élus conservateurs qui ne lui donnent que quelques mois pour conquérir les Britanniques et garantir une victoire aux prochaines élections. Selon le Times et le Telegraph, Liz Truss devrait annoncer un gel des tarifs de l'énergie pendant 2 ans pour faire face à la crise. D'autres quotidiens titrent aussi sur cette information, comme le Financial Times, qui chiffre un tel plan à près de 120 milliards d'euros. Le tabloïd eurosceptique The Sun déclare lui son soutien à Liz Truss et titre en édito « Elle est la première ministre radicale dont nous avons besoin pour cette crise qui submerge la Grande-Bretagne. »
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 Royaume-Uni en direct de Londres. Un mot de sport pour terminer. Ne manquez pas Europe 1 Sport ce soir à partir de 20h. C'est le début de la Ligue des Champions aujourd'hui. Paris reçoit la Juventus de Turin. Coup d'envoi à 21h et ce sera à vivre sur Europe 1 évidemment.
Évidemment, tous les soirs Europe 1 Sport 20h, 23h30, 7 jours sur 7. C'est un service public hein, quasiment. Merci beaucoup Fanny.